Mais non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Salut, c'est Dany Baillet à Saint-Sevé. Vous êtes bien sur MDM 93.8 Saint-Sevé Charles-Tursan et nous vous proposons une demi-heure de détente et de plaisir au travers de cette émission que nous allons appeler Loup Gourmandas. Loup Gourmandas, pourquoi ? Parce que le suffixe as que vous connaissez amène toutes les subtilités de la langue gasconne. Par exemple, une can, un chien, une cagnon, un mignon petit chien. Une cagnotte, un petit chien, une cagnasse, mais on se passe de commentaires. Bonjour, c'est Dany Baillet, le Gourmandas à Saint-Sevé, sur Radio MDM 93.8 Saint-Sevé-Charles-Tursan et Mont-de-Marsan, bien sûr, 101.1. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose de très gourmand, de très gourmandas, c'est l'ortolan, et pour ne pas dire le mythe de l'ortolan, puisque pour parler de lui aujourd'hui, ben il nous faut hélas en parler au passé, car sa capture est devenue totalement illégale, comme vous le savez, l'oiseau étant classé espèce protégée. On va quand même essayer de prendre le temps de se le rappeler, ou pour ceux qui ne connaissent pas, de découvrir ce qu'il est, où était ce mythe de notre gastronomie. Donc je vais essayer de vous en parler avec un plan assez simple. D'abord, qui est l'ortolan ? Comment on le chasse, comment on le capture, comment et surtout ce qui faisait son originalité, on va l'engraisser, son engraissement dans des mains expertes. Bien sûr, sa dégustation encore plus fantastique. Et on va parler aussi de ses lettres de noblesse, puisque l'ortolan a beaucoup de lettres de noblesse depuis le 15e siècle et même certainement avant. En tout cas, les écrits que nous avons datent du 15e siècle. Nous allons donc parler des lettres de noblesse de l'ortolan et ensuite je vais me faire peut-être un petit plaisir. Ça n'est pas du règlement de compte, mais certainement pas. Mais pour rappeler à M. Bougrain-Dubourg que nous sommes toujours à l'écoute, que nous avons envie de parler avec lui sans qu'il franchisse avec des hélicoptères, des chiens-loups et des milices nos clôtures. Voilà, donc l'ortolan, c'est parti. Alors pour parler de l'ortolan, je vous l'ai dit bien sûr, hélas on va en parler au passé. Nous allons nous rappeler que c'est le mythe de notre gastronomie, que certains de nos politiques parmi les plus grands regrette, mais aussi les grands chefs cuisiniers, notamment les plus grands chefs gascons, dont nous parlerons un peu plus tard, qui hélas regrettent de ne plus pouvoir le servir. Alors, qui est l'ortolan ? L'ortolan, eh bien, c'est un petit passereau, voisin du moineau, cousin du moineau, cousin aussi du bec-figue, son plus proche cousin qui s'engraisse aussi. L'ortolan, c'est un passereau que l'on trouve en France dans le sud-est et dans le sud-ouest, surtout du département des Landes, qui est réputé pour sa chair délicate, puisque c'est le seul oiseau que l'on peut capturer, et en le mettant dans un espace confiné dans la pénombre, qui va s'engraisser pour devenir, je ne sais pas si c'est la bonne image, mais un micro-canard gras, en tout cas un volatile complètement gras, sachant que quand il est capturé, vivant bien sûr, il sera consommé par des amis proches ou pour une grande occasion, donc ça n'est pas de la consommation industrielle, bien évidemment. Nous verrons ça plus tard en détail, naturellement. Dans ma famille, on connaît le bruant, puisque c'est la famille du bruant, depuis toujours, puisque nous sommes installés en Chalosse avec le même nom depuis 320 ans, et que nous avons comme voisin une rivière, le Gabas, dans laquelle nous avons toujours pêché, et aussi des champs, des pentes, des bois, dans lequel nous avons toujours capturé cet oiseau magnifique, le bruant ortolan. Alors dans la famille du bruant, il faut savoir qu'ils sont 6 en tout, le bruant noir, le bruant proyé, le bruant jaune, le bruant zizi, le bruant des roseaux et le bruant ortolan, seul et unique, qui a cette capacité extraordinaire de s'engraisser dans la pénombre jusqu'à ce qu'il meure. Alors comment se chasse l'ortolan ? En réalité, tout ça est le fruit de empirique, si j'ose dire, de l'observation des paysans, car ce sont les paysans de Chalosse qui chassaient l'ortolan depuis la nuit des temps. Et en fait, la chasse se déroule sur une période très courte, du 15 août au 15 septembre, chaque année, pendant la période de migration de l'ortolan. Bien sûr, elle obéit à une science très précise issue de l'observation des paysans, depuis des temps immémoriaux bien évidemment. En effet, contrairement à ce que croient certains, il n'est pas si facile, parce qu'on le souhaite, de capturer de l'ortolan ce qu'on appelait l'ouberdoum en gascon, ou l'oubenarit, ce qui signifie le bien nourri dans la nature. Mon grand-père, lui, localisait près d'une haie une bordure de chaume avec mon père et nous dessinions la future chasse. Alors l'endroit était délimité, on y plantait une plante qui donne des graines vertes dont l'ortolan est friand, qui s'appelle la chêne-vie, que l'on appelle aussi en gascon les milleroques. On faisait un rang tendu que nous faisions retomber sur un fil qui portait de grandes touffes de graines dont l'ortolan était très friand. Et nous faisions aussi des pieds dispersés de milliers et d'alpistes qui sont à la base de l'alimentation de l'ortolan. Tout ceci en bordure d'un chaume. Ensuite, nous disposions des carrés où le sol était pelé, nettoyé, pour y poser les matoles. La matole, c'est ce piège en bois ou maintenant en grillage, à travers lequel on mettait tendu sur un fil, sous un fil, quelques graines. Et cette matole s'appelle aussi, dans la Haute-Lande, attrapiote. En tout cas, c'est ce que nous donnent Ferdinand Berned et les conteurs d'Arjusan. Et selon le langage de la chalosse ou du marancet, il est différent, mais la matole est un piège qui permet de capturer vivant l'oiseau. Et le soir, nous venions relever les ortolans et renvoyer bien sûr tous les intrus qui n'étaient pas souhaités, tous les mésanges, pinsons, bouvreuils, rouge-gorge, bec-figue, fauvette, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, l'oiseau qui devait franchir le passage du fil de la matole se faisait aller dévorer des bouquets d'avoine qui étaient dessous, qu'il appelait, et qui étaient plantés dans le sol grâce à des tubes de plumes d'oie dans lesquels nous avions enfilé les tiges d'avoine. Ensuite, des appelants, bien sûr, étaient dissimulés dans des cages, des oiseaux de la même famille, qui devaient naturellement faire la chanson, c'est-à-dire tromper naturellement les oiseaux qui étaient au passage, en les appelant et en les faisant descendre sur des branches que nous avions prévues à cet effet, pour y mettre les cages suspendues et appeler les oiseaux qui étaient en migration. Je vais essayer de vous faire écouter, pour vous donner une idée, le chant de l'ortolan qui est en pleine migration et qui est en plein passage. Je vais essayer de vous donner ça au plus près. Voilà pour ce qui est de la chanson. Et pour ce qui est des connaisseurs, en tout cas ceux qui nous en parlent, qui font des comptages, je les mets au défi d'entendre cette chanson, puisque c'est ce qu'on appelait la tyrolienne, du vrai bel appelant, celui qui chantait bien et qui ne fait pas fuir les autres oiseaux. Et quand on sait qu'il passe entre 5h et 7h du matin relativement haut dans le ciel, je ne sais pas comment tous les gens qui font le comptage peuvent déterminer sur ce cri combien il y en a à notre disposition. Ceci étant, c'est une autre histoire, bien évidemment. Donc des appelants dissimulés au milieu dans des cages sur les branches avoisinantes qui devaient chanter, faire le bruit et appeler. Les oiseaux descendent, ils se prennent sous la matole. Et voilà, bien sûr, naturellement, ils étaient ramassés avec beaucoup de précautions et confiés aux mains expertes d'un spécialiste, naturellement, car engraisser un ortolan, ça n'est pas prendre l'autobus, c'est très très difficile. On le met à l'abri dans un endroit sombre où petit à petit, il va s'accoutumer à ne plus chanter et à s'auto-engraisser, car ce n'est pas un engraissement forcé, il faut quand même l'indiquer, mais il est auto-engraissé, il prend tout seul la décision de s'engraisser. Chaque oiseau, dans ce cas-là, reçoit plusieurs fois par jour une ration que l'on appelle la millade, c'est-à-dire du panis, le millet, pour 4/5, et de l'alpiste pour la pétance, une petite graine dont il est très friand pour 1/5, et parfois, bien sûr, en tout cas c'était le cas à la maison, mon grand-père maintenait toujours quelques graines de chanvre, de chènevis dégénérées, que nous conservions, religieusement à la semence d'une année sur l'autre. Pour que l'engraissement se passe au mieux, la cage est nettoyée à chaque fois, afin d'éviter qu'il ne ramasse ses rejets, puisque l'oiseau, il faut le rappeler, est consommé avec ses entrailles. Ceci étant dit, c'est le début de l'engraissement, c'est la période d'engraissement qui s'effectue en moyenne pour une période de 21 jours. Et le niveau de l'engraissement de l'oiseau se mesure autour de l'os de la poitrine, qui s'appelle le bréchet, le petit os pointu, et qui annonce la fin prochaine de cette opération délicate. Salut, c'est Lou Gourmandaz, vous êtes bien sur MDM 93.8 Saint-Sevé, Châlons-sur-Saint, 101.1 Mont-de-Marsan.
Sabre un matin fut arrosé de graffitis rouges et noirs. Les murs riaient, les gens parlaient. Malédiction, c'est l'anarchie. Beauté, soleil, embrasse. Pas qu'ils fête. Mais où allons-nous? Et le travail? Faudrait pas croire qu'on va payer, trimer, bosser pour leurs beaux yeux. Pour des soleils, embrassons-nous, caressons-nous, faisons l'amour sur les pelouses de Salinas. Non seulement salissent nos murs, en plus ils puent et sentent mauvais. Il y avait déjà les Portugais.
Certains engraisseurs, avant de mourir, de faire mourir l'ortolan, lui faisaient engloutir une gorgée d'armagnac. Mais cette pratique a toujours été exclue par ma famille pour ne pas dénaturer le mets. Donc l'opération s'avérait souvent risquée, il y avait souvent de la perte, les oiseaux n'arrivant pas tous au bout naturellement. L'oiseau qui arrive au bout, ben lui, il est plumé, et c'est une opération extrêmement délicate, en faisant très attention, car l'accumulation de cette merveilleuse pellicule de graisse constituée entre la chair et la peau ne doit jamais être percé. Donc une maîtrise qu'avait parfaitement acquise mon grand-père, Victor, et dont a hérité, par chance, mon frère aîné, Fanfan. L'oiseau est plumé dans un linge afin qu'il ne sue pas dans vos mains. Il est conservé dans une pièce fraîche ou en bas du réfrigérateur. Il est maintenant prêt à être cuit et emmené à la dégustation aux convives. L'ortolan est donc posé dans une cassolette avec un peu de fleurs de sel, une cuillère à café d'un grand bazar maniaque, une cuillère à café d'eau est disposée dans le four chaud. Le but est de faire, bien sûr, chanter sa graisse. Les cassolettes grésillantes et odorantes sortent du four au bout de 5 minutes pour une intervention quasi-chirurgicale extrêmement minutieuse, qui est l'extraction du foie, qui contient la petite vésicule biliaire très aigre. On plantait alors sur le flanc une aiguille à 30 degrés pour l'extraire d'un coup, le foie durci par le début de la cuisson, avant de remettre l'oiseau une minute supplémentaire. Ensuite, le but, c'était naturellement d'emmener l'oiseau et aux convives. Donc, les gens vous attendaient à table. Naturellement, ce sont des gens triés sur le volet. Et chacun reçoit sa cassolette avec son ortolan et qu'il doit, bien sûr, mettre en bouche entier par le cul. Donc, ça n'est pas rien. Donc l'objectif, bien sûr, c'était de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Et pour ce faire, chaque convive reçoit une immense serviette. Les miennes sont brodées à mes initiales par ma femme, que le petit Jésus est en sa sainte garde. Et voilà. Et donc, une fois l'oiseau brûlant pris dans la main, chaque convive le pose sur sa joue afin de voir s'il est très brûlant. S'il n'est plus très brûlant, à ce moment-là, on peut le mettre dans la bouche, par le cul, et on coupe le cou. Et va arriver le moment, bien sûr, extraordinaire, donc de la véritable dégustation. Donc, dans la bouche, naturellement, dans ce tissu soyeux, va s'égrener une tranche de vie extraordinaire, car le privilège de cette dégustation, naturellement, c'est unique. En bouche, dans les 30 premières secondes, votre langue est le déclencheur et le réceptacle d'une incroyable orgie de sensations. L'explosion de ces sucs de gras légèrement sucrés, adoucis par la chair, forme une sensation unique de douceur qui inonde la bouche et vous amène vers un ailleurs où le reste du monde n'existe plus, où tout n'est que silence et recueillement. Cette cloche qui est faite par votre serviette de tissu est à la fois le moyen de créer un espace confiné, bien sûr, d'humer les saveurs grésillantes et bien sûr de pouvoir en toute liberté déguster en faisant fondre ce mets délicatement dans votre bouche, ce qui peut parfois déborder et attaquer votre chemise. Donc je reste bien sûr naturellement à l'écoute pour ceux qui me diront qu'il faut consommer l'ortolan en début ou en fin de repas. Tout ça n'est pas très très grave. Ce que je voudrais vous dire, c'est que au ce moment-là, naturellement, la question se pose évidemment, que boire avec ce mets fabuleux, me direz-vous. Alors Marcel Proust, lui déjà, dans les lettres, on va parler de lui, il dégustait tout le temps des ikems, naturellement, c'est bien, dont recelait la cave des Guermantes, où il dégustait des ortolans en écrivant à la recherche du temps perdu. Pour moi, sans me comparer à Marcel Proust, un grand sauterne très beau tritisé, et j'ai par exemple le souvenir de l'aphorie Peyragué 1990 inoubliable, reste pour moi le meilleur pour prolonger à souhait ses goûts subtils et le charme subtil de ses sucs de l'ortolan en bouche. D'autres préféreront casser l'emprise du gras par une gorgée d'Armagnac, un vieux Pessac léognan, chacun le dira. En tout cas, il n'y a pas de dictature autour du plaisir et chacun choisira. D'ailleurs, les plus grands ont choisi, puisque les plus grands chefs, je ne parle que des Gascons, mais Michel Guérard, Alain Ducasse, Alain Dutournier, Jacques Cousseau, pour ne parler que des chefs les plus étoilés, regrettent l'ortolan et demandent bien sûr à toutes les autorités de nous donner une journée pour pouvoir le redécouvrir. Mais aussi et surtout, l'ortolan, bien, il a des lettres et pas des moindres. On se rappelle du bon Jean de La Fontaine vers 1680 qui nous parle de relief d'ortolan qu'il dégustait à l'époque avec Madame de la Sablière à l'emplacement justement de l'actuel carré des Feuillants près de la place Vendôme, lieu béni du chef non moins béni Alain Dutournier. Jean de La Fontaine qui était aussi grivois à souhait et parfois plus si affinité, qui n'a pas écrit que de bonnes fables moralistes mais nombre d'écrits gourmands, voire très coquins. La Fontaine, bien sûr, mais aussi, et celle-là, je vous la gardais, elle est délicieuse, le sire François Rabelais, qui, entre autres choses pantagruéliques, nous laisse une tirade fantastique que j'ai extraite de ses livres secrets, trouvés dans son grenier, pour raconter sa dégustation d'ortolan. Écoutez bien, je l'avais gardé pour la fin à méditer. Je pris l'ortolan par le derrière, et d'un coup sec dedans, lui séparait la tête du corps. Alors, après quelques circonvolutions labiales, son suc m'explosa en bouche et ma langue caressa les contours dérangeants d'un plaisir quasi clitoridien. Non, mais vous entendez ça? Comment ajouter quelque chose quand la vie vous donne cette chance? Eh bien oui, j'ai décidé avec nos chefs et nos politiques qui le connaissent de crier la volonté de redécouvrir ce mets fantastique qui a ses lettres de noblesse, bien sûr, et qui vaut qu'aujourd'hui l'ortolan se déclame, se proclame, se vocifère si nécessaire. Mais pour nous les Gascons, nous ne nous laissons pas éteindre par les défenseurs de la nature dont le seul lien avec elle est souvent un magasin bio. Partons en croisade pour lui redonner l'accès à nos palais aiguisés, avec modération, bien évidemment. Alors, je voulais quand même terminer, si quelques secondes me restent, en vous donnant un petit écrit que j'ai préparé pour M. Alain Bougrain-Dubourg, qui n'est pas notre ennemi comme il le croit, mais quelqu'un qui certainement suit et poursuit de bonnes causes, mais qui, avec nous, a souvent été quelqu'un accusateur un peu gratuit. Monsieur Alain Bougrain-Dubourg, vous accusez les chasseurs landais, nous sommes des pilleurs, nous prélevons 30 000 ortolans par an, alors que la chasse est interdite depuis 20 ans. Tout ceci me semble quelque peu irréel, mais surtout je voudrais vous dire combien nous sommes choqués de vos dires et de votre façon de penser et d'agir. D'abord, quant à vos méthodes de comptage, c'est une première chose. Ensuite, quant à vos méthodes militaires, des hélicoptères, la police, des milices au sol qui viennent dans nos jardins détruire sans autorisation ni discussion nos chasses. Je veux vous dire que cette pratique séculaire est le fruit d'une tradition acquise de mon père et de mon grand-père, qui enfant me prenait la main pour m'amener lever la chasse ou lever les cordeaux tendus pour les anguilles. En préférant l'hématole, c'est mon père musicien, et en le piétinant, c'est mon père musicien, poète et paysan, et mon grand-père que vous piétinez. Ils connaissent cette terre et cette chasse par l'observation et le respect qu'ils lui doivent, et leurs prises ont toujours été très maîtrisées. Ce ne sont plus les chasseurs qui peuvent être pris par défaut pour détruire une espèce et toutes les autres qui sont en danger. Pourquoi ne pas vous en prendre à l'agriculture industrielle et peut-être à ses principaux détracteurs que tout le monde connaît et qui ont détruit un biotope superbe et continuent sans se poser de questions? Certes, c'est plus difficile. Pourquoi vouloir une ville lisse où chaque identité locale doit disparaître pour servir la cause des gens de la ville, désœuvrés certainement et en recherche de sens à donner leur vie? Vous êtes pétri de certitudes sur l'ortolan comme sur le reste, et je vous invite simplement à venir discuter. Et je vous expliquerai que dans la chasse à l'ortolan, tout n'est que respect, que silence, qu'écoute, qu'émerveillement, et non pas le lot de gens du monde paysan que vous livrez en pâture aux journaux et aux réseaux sociaux, les faisant passer pour des assassins, braconniers, ivrognes et analphabètes. Tout ceci nous oppose au smartphone, à l'abêtissement implacable lié à l'utilisation d'une machine et à l'immédiateté que celle-ci est censée procurer. Ici, le temps est à l'observation, au respect, à la joie d'offrir et de partager avec nos voisins de l'entraide agricole ou une fête de famille, où l'ortolan est un véritable mythe à réserver aux initiés. Alors, monsieur Bougrain-Dubourg, la fameuse grotte bouffe, comme vous dites, et dont vous nous affublez, je vous le demande, est-ce le lot d'un dîner chez monsieur Michel Guérard, ou chez Alain Ducasse, ou chez Alain Dutournier, ou chez monsieur Cousseau? Je ne crois, et en ne citant bien sûr que les grands chefs gascons, je ne pense pas que cela soit logique. Voilà, donc je voulais simplement vous le dire et vous inviter à venir dès que vous le souhaitez et que vous le voulez, en discuter avec nous plutôt que de nous amener vos hélicoptères. Merci beaucoup et à très bientôt sur nos ondes.